RRB, l'invité du matin.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Actualité politique ce matin avec votre invité.
Oui, notre invité du matin c'est Gilles Briel, deuxième vice-président de la province sud. Bonjour.
Bonjour Elisabeth Noir.
Merci d'accepter votre invitation alors que l'on approche de la rentrée et que les dossiers d'actualité sont très lourds entre les discussions politiques institutionnelles et bien sûr la question nickel. Sur ce sujet d'ailleurs on sait que les Calédoniens sont inquiets et peut-être un peu perdus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On attend des décisions, des réponses dans ce secteur du nickel alors que les trois usines métallurgiques sont en sursis. Quelle analyse vous faites de la situation ?
D'abord, on a un accompagnement fort de l'État, par la parole de Bruno Le Maire, avec une volonté d'accompagner les usines. Les trois usines sont en grande difficulté financière, avec des problématiques différentes en fonction des usines. Mais ce qui est sûr, c'est que aucune des trois ne peut être sauvée par les Calédoniens aujourd'hui. C'est-à-dire que seul l'État peut nous aider à nous en sortir et apporter la centaine de milliards d'euros nécessaires pour sauver ces usines-là. Et l'État, en contrepartie, demande que les Calédoniens fassent des efforts, que les collectivités de Nouvelle-Calédonie fassent, elles, également, ce qui est nécessaire pour sauver ces usines. C'est-à-dire par une participation financière qu'on devra mettre en place, mais également par des prises de décision qui permettent de limiter la perte de ces usines.
Et notamment l'exportation.
Notamment avec le fameux dossier d'exportation qui est bloqué par le président de la province Nord depuis un certain nombre d'années. C'est ce qu'on appelle la doctrine nickel du Nord. Et pour sauver la SLN, il faut qu'elle puisse faire ses exportations. Donc l'État nous demande qu'il y ait un accord global. Eux veulent bien financer, veulent bien participer, mais ils veulent pas le faire à fond perdu. C'est-à-dire que si ils amènent encore en 2024 beaucoup d'argent en liquide, mais qu'en Nouvelle-Calédonie on fait pas ce qu'il faut pour sauver ces usines, ça n'a pas d'intérêt pour eux. Donc ils nous demandent de faire cet effort-là. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Pour l'instant, le représentant du président de la province Nord est opposé à ces exportations, donc bloque l'accord qui pourrait. Donc on essaie de travailler, Sonia Baquet c'était à Paris, pour sauver la SLN et Pruny Ressources dans les jours qui viennent. Donc moi je comprends l'inquiétude des salariés de ces trois usines, l'inquiétude des prestataires, c'est plusieurs milliers de familles, hein, on dit à peu près 16 000 personnes, donc 16 000 familles qui sont impactées et qui peuvent tout perdre si cet effort n'est pas fait.
On va arriver à débloquer la situation, vous croyez? Très franchement.
Je suis convaincu qu'à un moment, tout le monde va avoir un moment de lucidité et que les efforts seront faits pour sauver ces usines. Ça devrait être dans les jours qui viennent pour la SLN et pour Pruny Ressources. J'espère que ça va suivre également pour KNS avec une réunion, c'est vrai, aujourd'hui problématique, hein, parce que la mise sous cloche de KNS, c'est-à-dire que on arrête le fonctionnement de l'usine, on garde juste le nombre d'emplois qui permettent de la sécuriser et de la maintenir en état, mais ça veut dire plusieurs centaines d'emplois directs et indirects de détruits, quoi.
Effectivement, on attend éventuellement des décisions ou en tout cas des prises de position dans la journée. Beaucoup d'activités aussi dans le domaine des discussions politiques, des discussions qui ont lieu entre indépendantistes et non-indépendantistes. Mais franchement, on n'en sait pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui sorte. Calédonien Ensemble a tout de même publié un document de convergence calédonienne. Vous l'avez lu? Vous en retenez quelque chose?
Alors, il y a deux méthodes différentes, hein, qui sont mises en place. Il y a une méthode de politique spectacle à Philippe Gomez. C'est ce qu'il a tenu à faire, à présenter un accord individuel, je dirais, puisqu'il dit qu'il y a un accord, mais il le présente tout seul. Ça a été démenti assez rapidement et de manière dure par l'Union calédonienne. Nous, on s'est inscrit dans une démarche de discussion avec les indépendantistes. On considère qu'on a un mandat pour ça. Le mandat, ça s'appelle l'élection de 2019. Donc c'est ce qu'on fait avec Sonia Baquès, Virginie Krufnak, Alcide Ponga, Nicolas Mesdorf, Brieux Froger. On porte un projet qu'on a présenté aux Calédoniens, mais ça passe d'abord par des explications de texte. On a beaucoup de choses à se dire avec les indépendantistes, des choses qui sont importantes, parfois assez désagréables. Et si on veut que ça avance, il ne faut pas vouloir en faire quelque chose, une pièce de théâtre. Voilà. Il faut avancer de manière sereine, sans pression et avec un objectif d'avancer rapidement dans le temps. Donc c'est ce qu'on fait.
Ah, il y a deux écoles, il y a la transparence ou il y a au contraire la discrétion. Vous choisissez pour l'instant d'être plutôt discret pour permettre de faire avancer les choses ?
Ben, encore une fois, ça dépend si vous voulez faire du cinéma ou si vous voulez faire avancer les choses. C'est-à-dire si vous voulez faire croire que vous portez une ambition pour la Nouvelle-Calédonie ou si vous voulez faire aboutir la Nouvelle-Calédonie. Nous, c'est pas une question d'opacité, c'est pas une question de volonté de ne pas être transparent. On considère que pour que les choses se passent bien, et ça a été comme ça pour tous les accords, il faut un moment entre Calédoniens, un moment posé, sans pression, et où les discussions peuvent se faire de manière franche, mais sereine.
Il y a un calendrier, vous allez vous revoir ?
Oui, on se revoit dans les jours qui viennent. On a fait des propositions aux indépendantistes. Ils vont nous en faire d'autres. Et l'objectif, c'est... On a des réunions de travail qui sont régulières, où chacun travaille entre ces moments-là.
Alors l'État est très présent également sur le dossier calédonien, avec notamment cette semaine les deux projets de loi, un projet de loi constitutionnel, un projet de loi organique, modification du corps électoral, report des élections provinciales. C'est un soulagement pour vous, vous attendiez ces projets de loi, ces textes, vous avez l'impression que les choses avancent enfin ?
Enfin, oui. C'est une obligation juridique par rapport aux engagements internationaux de la France, mais c'est également une obligation morale, politique, par rapport à ces milliers de Calédoniens qui sont des Calédoniens, qui vivent en Nouvelle-Calédonie, qui ont investi en Nouvelle-Calédonie, qui ne connaissent que, qui ont des enfants qui ne connaissent que la Calédonie, qui sont exclus aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose, l'État s'était engagé, le président de la République s'était engagé, nous on est contents qu'enfin l'État tienne son engagement. Je rappelle que quand les Calédoniens valident à 72% l'accord de Nouméa en 98, on a un corps électoral glissant indissant et c'est l'État de manière unilatérale qui en 2007, à la demande des indépendantistes, nous gèle ce corps électoral. Donc ce que l'État nous a fait, je dirais, dans le dos en 2007, c'est bien qu'aujourd'hui, il rattrape cette erreur. Et c'est important également pour les élections qui arrivent, que ces Calédoniens puissent participer à ces élections. Et pour nous, c'est décrocher, je dirais, des négociations. C'est une responsabilité de l'État, c'est l'État qui a gelé, c'est à l'État de le dégeler.
Les 25 000 personnes qui seraient intégrées dans ce corps électoral, ça peut changer les choses ?
Dont 12 000 natifs. C'est-à-dire qu'on parle de Calédoniens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, qui ne connaissent que la Nouvelle-Calédonie pour ces 11 000 personnes et qui ne peuvent pas voter. Ça ne change pas énormément le rapport de force, c'est-à-dire que ça ne va pas noyer les indépendantistes au Congrès, toutes les simulations qui sont faites, ça bouge d'un siège ou deux. Vous savez, nous, notre responsabilité, les loyalistes aujourd'hui et avec le Rassemblement, c'est de recréer une majorité non indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les Calédoniens ont dit trois fois non à l'indépendance et se voient au quotidien imposer une politique indépendantiste par le gouvernement à majorité indépendantiste. Pour ça, il n'y a pas de secret. Alors oui, il faut le dégel du corps électoral, mais le dégel du corps électoral ne suffit pas. Il faut le rééquilibrage politique. Quand il y a eu, en 98, l'accord de Nouméa, ils ont décidé que les électeurs de province sud pèsent moins que ceux du nord et ceux des îles. Mais il faut refaire ce rééquilibrage. Nous, on dit qu'il faut revenir au ratio de 98. Un électeur de province sud pèse aujourd'hui beaucoup moins que celui du nord. C'est pas normal. Et l'autre chose qui est absolument indispensable, c'est l'union dans le nord. C'est-à-dire que si on n'est pas unis dans le nord et si on n'est pas unis dans les îles, si c'est ce qui se passe en 2019 où les voix non indépendantistes ont été divisées en deux, on a perdu des sièges. Donc voilà, une majorité, ça se travaille. L'État prend sa part de responsabilité avec le dégel du corps électoral. Nous, on déposera par l'intermédiaire de Nicolas Mesdorf un amendement pour qu'il y ait un rééquilibrage. C'est pas accepté en métropole, il n'y a pas de raison que ce soit accepté en Nouvelle-Calédonie, qu'il y ait un rééquilibrage du poids politique dans l'ensemble des électeurs du territoire. Et on fait ce travail, c'était le sens d'une réunion organisée par Nicolas Mesdorf dans le Nord. On fait ce travail de regroupement de tous les non-indépendantistes du Nord et des îles sur une seule liste pour pouvoir avoir une politique claire et une majorité, je dirais, stable, claire, non-indépendantiste au Congrès et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Beaucoup de rendez-vous dans les mois qui viennent pour cette année 2024. La visite de Gérald Darmanin et d'ailleurs d'Éric Dupond-Moretti le mois prochain, enfin ce mois-ci, en février. La révision constitutionnelle, évidemment. Les élections, possiblement en fin d'année, en décembre prochain. On a l'impression que l'objectif, d'ailleurs il le dit, l'objectif de l'État, c'est qu'il y ait un accord entre partenaires calédoniens. C'est possible et c'est important que l'État ait cette position.
Alors, c'est normal que l'État souhaite un accord. Tout le monde souhaite un accord. Vaut mieux un accord que pas d'accord. Mais nous, ce qu'on dit, ce ne sera pas un accord à n'importe quel prix. Et là, c'est une différence entre la politique spectacle de Philippe Gomez et la nôtre. Nous, on travaille à la mise en place d'un accord. On considère que c'est toujours mieux qu'il y ait un accord, mais il ne se fera pas au prix de concessions sur les valeurs qui sont fondamentales pour nous, c'est-à-dire un corps électoral glissant, c'est-à-dire un droit à l'autodétermination qui se répète pas tous les quatre matins, un rééquilibrage politique au sein de nos institutions. Donc voilà, c'est quelque chose de difficile à mettre en place un accord. C'est des concessions de part et d'autres, mais avec une nécessité de conserver une ligne claire sur ce qui est pour nous les fondamentaux, et les fondamentaux, c'est trois fois non à l'indépendance. Donc, il peut y avoir un accord, on souhaite, en tout cas, on travaille dans ce sens-là, mais s'il n'y a pas un accord d'ici la fin de l'année, ben vous savez quoi, c'est pas grave. On fera des élections provinciales avec un corps électoral dégelé, avec, j'espère, un rééquilibrage politique, et les nouveaux élus auront la tâche, le devoir de trouver un accord d'après accord de Nouméa.
Dans un tout autre domaine, Gilles Brial, la rentrée scolaire se prépare elle aussi, c'est dans quelques jours maintenant. Il y a un problème sur la tenue unique, vous avez des conseils à donner aux parents. Hein.
Alors oui, la tenue unique qui d'ailleurs
fait école en métropole,
puisque le président de la République et le Premier ministre annoncent un déploiement d'abord expérimental et je le souhaite après généralisé de cette tenue unique. On a eu une défaillance, c'est une délégation de service public, on a eu une défaillance du délégataire, c'est-à-dire l'entreprise qui le faisait pour la province en 2023. On a dû donc arrêter cette délégation. Trouver un prestataire pour l'année 2024. Donc évidemment, ça nécessite au prestataire de trouver ses fournisseurs, de pouvoir faire floquer, de récupérer son matériel. Donc les tenues communes vont être fournies aux familles pour les vacances d'avril. Donc c'est la société IPC qui a ce marché pour l'année 2024. Dans les jours qui viennent, il va y avoir un site internet où les précommandes pourront être effectuées. C'est-à-dire que vous précommandez, mais vous ne payez pas, mais vous choisissez l'école, la taille des vêtements pour votre enfant. Et après, les parents seront tenus informés de à quel moment se feront les livraisons. Et il y aura un magasin dédié qui est en face du commissariat de police des Tours de Magenta, l'ancien Trouve-Tout, donc qui sera le magasin des tenues communes de la province sud, et une page Facebook qui a été mise en place, tenues communes en province sud, avec l'ensemble de ces informations.
Le message d'ici avril, avant que les tenues soient prêtes, ils font comment ?
Comme les années précédentes, les parents ont déjà, pour la plupart d'entre eux, des kits, donc qu'ils continuent à les utiliser, et ceux qui ne les ont pas parce qu'ils sont nouveaux dans l'école, ou parce que la taille n'est plus la bonne, ils s'habillent avec les habits du week-end des enfants. Il y a une tolérance qui est faite jusqu'aux vacances d'avril avec la livraison de l'ensemble de ces kits. Donc il ne faut pas s'inquiéter, tout le monde aura en avril sa tenue commune et on aura un fonctionnement normal. C'est la complexité d'être dans une petite île, un peu loin de tout, donc il y a forcément des délais. Et je voudrais apporter une précision parce que les réseaux sociaux... Et tout se dit et beaucoup de n'importe quoi. Quand on travaille, les entreprises qui travaillent pour la province sud, elles doivent respecter une charte éthique et environnementale. Donc il n'y a pas de petits enfants qui font ces polos dans des conditions environnementales inacceptables. C'est fait au Bangladesh, mais comme une grande partie des tissus aujourd'hui, vous savez, ce sont les pays qui sont devenus incontournables. Mais c'est pas parce que vous choisissez une entreprise du Bangladesh que vous ne pouvez pas imposer ces normes environnementales et éthiques. Et donc, il y a une vérification du respect. Ces entreprises-là ne travaillent pas que pour la Nouvelle-Calédonie, elles travaillent pour des grandes marques européennes qui ont la même volonté d'éthique et de respect de l'environnement que nous.
Voilà qui est dit. Et nous aurons bien sûr l'occasion de vous retrouver pour parler prochainement de la préparation de la rentrée scolaire en province sud. Merci Gilles Brial d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.